Alors, un sujet que nous n'allons pas quitter, puisque nous allons accueillir maintenant Agathe Natanson-Marielle. Bonjour. Venez vous asseoir près de moi. Je crois que vous n'avez pas de diapo. Voilà. Et je vous donne ce micro. Donc, vous êtes comédienne et membre active du comité d'organisation de la Fondation Recherche Recherche Alzheimer, pardon, ce qui est aussi une fondation recherche médicale, donc je ne confonds pas les deux. Vous étiez l'épouse de ce comédien tant aimé des Français, Jean-Pierre Marielle. Vous avez aidé les dentes de votre mari touché par la maladie d'Alzheimer. Et vous en parlez dans un très beau livre qui vient d'être publié aux éditions du Seuil, « Chantons sous les larmes, lettre à Jean-Pierre Marielle ». Donc c'est un livre... que vous pourrez retrouver tout à l'heure à la fin des entretiens et que Agathe Natanson-Marielle pourra vous dédicacer. Donc ces lettres sont adressées à votre mari après son décès. Hein. Vous parlez de la vie que vous avez maintenant sans lui, tout un tas de sujets, mais vous revenez aussi sur cette terrible maladie qui s'est immiscée dans votre couple. Alors comment vous, en tant qu'aidante, vous avez organisé les choses ?
Donc Jean-Pierre est parti il y a 5 ans. Il a été malade très longtemps. Très longtemps. Alors effectivement, c'était insidieux au départ, mais il se trouve que ma mère avait déjà eu la maladie. Donc j'ai très très vite compris qu'il commençait à développer la maladie. Ça s'est d'abord traduit par effectivement des troubles de la mémoire. Pour un comédien, c'est compliqué. Mais ça, on a pu pallier ce phénomène parce que maintenant, il y a des systèmes qui permettent aux comédiens de pouvoir continuer de jouer même si leur mémoire n'est plus là. Et en fait, on s'est aperçu que s'ils n'avaient plus la mémoire du texte, le fait de jouer restait intact. C'est-à-dire que ça n'avait en rien altéré ses facultés d'imagination pour le jeu. Peut-être même, au contraire, ça avait développé quelque chose de très particulier et le docteur de la Doucette qui le suivait en était lui-même très surpris. Donc, comment j'ai appris à vivre avec la maladie, enfin avec Jean-Pierre et la maladie ? Eh bien, en devenant aidante, effectivement, à plein temps. C'est-à-dire que je ne le quittais plus du tout. J'étais avec lui dans la vie de la maison, j'étais avec lui quand il travaillait, puisqu'il continuait de travailler grâce à ses systèmes qui étaient suppléants à sa mémoire. Donc j'étais non-stop auprès de lui.
Pour que ça soit très clair, pardon de vous interrompre, des oreillettes.
Oui, voilà, ce sont des oreillettes qu'on met dans le...
Voilà, oreillette,
il y a tout un système de relais entre l'oreillette qui est dans le... Comme les journalistes ont, quand vous les voyez, quand ils présentent le journal, ils ont une oreillette, et dans cette oreillette, on leur dit des choses. Eh bien, c'était la même chose, sauf que moi, j'étais sur les plateaux. Je disais le texte et lui le jouait. Donc ce qui fait qu'effectivement je ne le quittais pas d'une minute, ce qui est, c'est vrai, épuisant. Épuisant, on y laisse la moitié de son corps, son dos, sa fatigue, son énergie, ça. Voilà, il faut être, comme disait le docteur Roche, on peut devenir irritable. En fait, il ne faut pas l'être. Parce que ce n'est pas de leur faute, ils sont malades. Donc quand on commence tout à coup à se dire « Ah non, ce n'est pas possible, je l'ai dit 20 fois, ce n'est pas possible », c'est juste se dire « Je ne dis rien, il est malade, donc je n'y peux rien ». C'est-à-dire que si tout à coup quelqu'un avait une jambe en moins et pas de prothèse et qu'on lui dise « Cours », c'est ridicule, on ne peut pas, c'est la même chose. Ce n'est pas de leur faute, ils ne peuvent pas, ils sont ailleurs, ils ne peuvent plus. Donc effectivement, il faut une patience énorme. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Je pense que c'est ça qui est le tuteur de l'aidant, c'est d'avoir beaucoup d'amour, beaucoup de patience. En général, on a soit son conjoint, soit son père, soit sa mère. Donc, en principe, ce sont des gens qu'on aime ou qu'on a aimés très, très fort. Donc, voilà, il faut... être qu'amour, il n'y a pas d'autre chose. Si on peut, effectivement, il faut essayer de se faire aider, parce que la maladie peut durer très longtemps, donc on s'épuise, on s'étiole, on se fatigue, on se démotive, on n'est pas des saints, donc ça devient compliqué. Donc si on peut un peu s'absenter, ne serait-ce que si on habite la campagne, pour faire un petit kilomètre dans la campagne, cueillir 3 coquelicots ou 3 roses sur le chemin, pensez à autre chose, essayer de respirer un tout petit peu, prendre un peu d'air et revenir un peu régénéré d'un petit moment qu'on a pu s'accorder. On ne peut pas s'accorder énormément de moments, c'est vrai, ce n'est pas la peine de se raconter une autre histoire, même si on a des facilités matérielles, ce qui était mon cas, j'avais beaucoup de chance, mais néanmoins, vous ne laissez pas l'être que vous aimez à une aide-soignante toute la journée, ce n'est pas possible. Vous avez envie d'être près de lui, vous avez envie de l'aider, et lui-même, il réclame qui ? Vous. Il réclame la personne qu'il a aimée toute sa vie, il réclame quelqu'un qui est son repère. Jean-Pierre, par exemple, partout où on allait, passait son temps à dire « Elle est où Agathe ? Elle est où Agathe ?» C'est devenu quelque chose de récurrent avec nos amis, tant qu'il était encore en possibilité de sortir, parce qu'il était, il avait besoin de ce repère-là, qui était son pilier, ça le maintenait dans un monde un tout petit peu réel, avant de partir complètement dans un autre monde.
Est-ce que vous avez senti vous-même ces signes d'alerte qui vous menaient vers l'épuisement ? Ou est-ce qu'on vous l'a fait remarquer ?
Non. Non, parce que j'ai la chance, c'est une chance, et puis c'est un don de la nature, d'être très résiliente. Je veux dire, j'ai vécu beaucoup d'épreuves dans ma vie, des grosses épreuves, et j'ai quelque chose de très résilient en moi, donc j'ai eu de la chance. C'est plutôt après, quand Jean-Pierre est parti, que là, j'ai eu un moment extrêmement difficile, parce que j'étais épuisée, donc il fallait que je fasse face à ce deuil qui était énorme pour moi, parce que même si Jean-Pierre, c'était extrêmement lourd à porter, il était quand même là. Physiquement, il n'avait pas changé, c'était l'homme que j'aimais, il n'avait pas maigri, il n'avait pas changé physiquement, donc c'était physiquement l'homme que j'aimais, même si l'homme n'était plus là, la personne que je... Mais donc je pouvais tenir très très bien, et à partir du moment où il n'a plus été là, d'abord j'ai eu cette faculté d'oublier tous ces moments d'horreur que j'avais vécu, et de ne repenser qu'au bon moment, donc forcément il me manquait, et c'est là que j'ai eu une sorte de double peine, oui, une énorme fatigue, mal dans le dos, oui, très mal dans le dos, parce que je l'avais aidé à marcher, aidé à se relever, il tombait beaucoup, donc seul avec lui, il était évidemment beaucoup plus grand et beaucoup plus fort que moi, donc le relever, c'était très très dur, et puis psychologiquement, tout ce que j'avais vécu de dur, tout à coup, me retombait dans un énorme sac à dos noir, que j'avais sur le dos, oui, c'est évident, et que j'ai encore 5 ans après.
Vous m'avez dit que Jean-Pierre Marielle, finalement, était dans le déni, qu'il n'avait pas accepté d'emblée comme ça le diagnostic. Vous, en tant qu'aidante, vous avez participé à le laisser dans l'illusion qu'il n'était pas malade.
Ah, mais de toute façon, Jean-Pierre n'a jamais entendu le mot Alzheimer, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de diagnostic posé, enfin... Il y a eu un diagnostic posé, mais c'est moi qui l'ai reçu et en partenariat avec le docteur de la Doucette qui s'occupait de lui. Jean-Pierre n'était absolument pas prêt en aucun cas à entendre qu'il pouvait avoir ce genre de maladie. Donc il est resté dans un déni total et moi j'ai joué le jeu du déni total. Et quand il a été vraiment très atteint, j'ai fait peut-être une chose qui était une erreur, c'est-à-dire que je nous ai isolés tous les deux. C'est-à-dire que nous n'avons plus vu personne, sauf les enfants, et c'est tout. C'était aussi dû au fait que Jean-Pierre était quelqu'un de connu, évidemment, et que je ne voulais pas même que les amis, parce que je crois que lui-même n'aurait sûrement pas aimé ça, que les gens puissent le voir en état de faiblesse. Et en état de maladie. Donc, effectivement, ça a été d'autant plus lourd à porter que je l'ai porté toute seule. Oui, c'est vrai.
Et donc, ce repli sur soi, hein, dont le docteur Roche parle aussi dans les signes d'alerte, ce repli sur soi a été compliqué à vivre pour un couple de comédiens qui avait l'habitude de...
Il n'était pas du tout compliqué à vivre pour Jean-Pierre, puisque Jean-Pierre était parti dans une autre... il était parti ailleurs, donc il était dans un autre monde.
Mais
il était
vous...
compliqué pour moi, oui, mais j'aimais suffisamment Jean-Pierre pour pouvoir le faire, et puis ça ne m'empêchait pas aussi, de temps en temps, de sortir, d'aller quand même au théâtre, et là je faisais comme pour un enfant, je faisais garder Jean-Pierre, quelqu'un venait le soir pour garder Jean-Pierre, et puis j'allais au théâtre, de temps en temps j'allais déjeuner, quelqu'un venait pour garder Jean-Pierre, voilà, c'est tout. C'était une petite organisation qui me permettait effectivement un peu de respirer. Quand j'étais à l'extérieur, je ne racontais pas ce qui se passait à la maison, mais quand je rentrais à la maison, j'étais quand même contente de retrouver Jean-Pierre, et puis j'avais un peu respiré.
Et ces petites bouffées d'oxygène vous ont aidé à tenir toutes ces années ?
Oui.
Oui. Donc très important, enfin, j'imagine que dans la salle, il y a beaucoup d'aidants. C'est un message à faire passer, c'est-à-dire de penser oui. à soi au moins une fois par jour.
Oui, de temps en temps, ne serait-ce que d'aller au marché, enfin moi j'adore aller au marché, ne serait-ce que d'aller acheter du poisson au marché, ça faisait une petite heure où je m'échappais, soit pendant que Jean-Pierre dormait, ou parce qu'on dort beaucoup quand même pendant cette maladie, donc si voilà, je savais qu'il avait déjeuné, qu'il allait un peu dormir, bon, je m'échappais une heure, où je faisais le tour du pâté de maison, où j'allais acheter, enfin voilà, je faisais des toutes petites choses qui me faisaient plaisir. Voilà. Et ça, ça m'aidait aussi à tenir le coup. Je pense que ce qui était le plus dur, peut-être pour moi, c'était les nuits, parce que j'étais terriblement angoissée, parce qu'il déambulait beaucoup. C'est aussi quelque chose qui va avec la maladie, le fait de déambuler. Donc de le sentir déambuler dans la maison, non-stop la nuit, de tomber souvent, ça, c'était extrêmement perturbant. Et c'est vrai que ça aussi perturber mon après, parce que j'ai encore énormément de mal à dormir sans me réveiller 3-4 fois par nuit, parce que je suis réveillée en sursaut, comme si je l'entendais marcher dans la maison. Oui, ça, c'était très, très perturbant.
Est-ce que vous avez eu besoin d'un soutien psychologique pendant toute cette période, ou vous avez tout porté sans rien dire ?
Non, pendant cette période, je n'ai pas eu besoin de soutien psychologique, mais par contre, après, oui. Après, je me suis fait aider, sans psychotrope, mais je me suis fait aider pour parler et pour retrouver quelque chose, un goût de vivre. Parce que le problème, c'est qu'effectivement, la lourdeur de cette tâche, il ne faut pas se voiler la face, c'est extrêmement dur et difficile, il n'y a rien de léger. Et les gens qui disent « Oh mais si, il dit des choses très drôles », oui, enfin, peut-être une fois de temps en temps, il dit quelque chose de drôle, mais le reste ne l'est pas, soyons honnêtes. Donc après, j'avais très certainement perdu un peu le goût de vivre. C'est en ça que je me suis fait aider, parce que tout à coup, je me suis aperçue que plus rien ne m'intéressait, plus rien ne m'intéressait, plus rien ne me rattachait vraiment à la vie. Alors, Dieu merci, j'ai des enfants, des petits-enfants, donc je m'accrochais à ça, mais il n'y aurait pas eu les enfants, les petits-enfants, vraiment, ça aurait été très, 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 très dur. Donc, je me suis fait aider, j'ai parlé, tout simplement, parce qu'on ne peut pas parler aux amis, on ne peut pas parler à la famille non-stop, donc on va voir quelqu'un et on parle, et ça décharge un peu le sac à dos, je crois.
Je vous propose qu'on laisse le public vous poser des questions. Parce que je suis
Alors avant oui. Je voulais juste dire un petit poème qui, à mon avis, résume vraiment très, très, très bien ce qu'est cette maladie.
On vous écoute.
Ne me demande pas de me rappeler. N'essaie pas de me faire comprendre. Fais-moi savoir que tu es avec moi. Je suis triste, malade et perdue. Tout ce que je sais, c'est que j'ai besoin de toi, que le meilleur de moi est parti. N'abandonne pas, reste à mes côtés. Aime-moi jusqu'à la fin de ma vie. Et je pense que ça résume vraiment bien cette maladie et ce qu'on peut faire en tant qu'aidant. Effectivement, rester à côté et aimer.
Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Oh, je suis sûre quand même qu'il y a des questions.
Je vais poser des questions. Difficile.
Oui.
Du coup, quand vous étiez à l'extérieur seul et que vous disiez que vous étiez un peu coupé du monde, quelle excuse vous donniez pour qu'il ne soit pas présent avec vous ? Parce que du coup, l'image que les gens avaient peut-être été l'habitude de vous voir en couple, là, vous étiez toute seule, donc vous deviez avoir des mensonges en plus à donner à chaque fois.
Bah, de toute façon, Jean-Pierre n'était pas quelqu'un... Jean-Pierre était quand même âgé, hein, il commençait à être très âgé. Donc, on savait, ça se savait, les gens étaient discrets et les gens aimants étaient délicats. Donc, les gens savaient plus ou moins qu'il y avait un problème, et ils avaient la délicatesse de ne pas me poser la question. Donc je disais, ben non, Jean-Pierre est fatigué, Jean-Pierre n'a pas envie de sortir, Jean-Pierre ceci, Jean-Pierre est à la campagne. Enfin bon, je trouvais 10 000 excuses. Je veux dire, il m'est arrivé de recevoir des gens chez moi et Jean-Pierre était, enfin des gens qui venaient faire des choses chez moi et ils ne voyaient pas Jean-Pierre. Jean-Pierre était dans sa chambre et voilà, et les gens avaient la délicatesse de ne pas poser de questions. Voilà comment j'arrivais à tricher. Mais c'était pour le bien de Jean-Pierre, vraiment. Vraiment. Ça n'aurait rien apporté à Jean-Pierre. Et pour les gens, ça aurait apporté quoi? De voir Jean-Pierre déficient et malade? Ce n'est pas une image extraordinaire.
Et puis il aurait aimé que garder certainement cette.
Il aurait détesté qu'on
image,
le voit dans cet état.
Comédien,
il aurait détesté ça. Je veux dire, c'était quelqu'un de très pudique. Donc il n'aurait vraiment pas aimé du tout qu'on le voit diminuer. Alors son meilleur ami l'a vu, c'est tout. Et je voulais dire une chose aussi, et qu'on n'a pas évoqué aussi, c'est qu'il y a aussi le moment où on est obligé, je dis bien obligé, de mettre la personne dans une maison. Parce que tout à coup, on ne peut plus, par exemple, Jean-Pierre était devenu extrêmement violent et envers moi, parce qu'il y a aussi une forme de la maladie d'être très violent. Donc Jean-Pierre était devenu violent et aussi il était violent envers lui-même. Donc il me mettait en danger, il se mettait en danger. Donc il y a un moment où on m'a dit, tu ne peux plus le garder chez toi, même si tu veux, tu ne peux plus. Donc il y a un moment où effectivement on le met dans une maison. Et alors évidemment c'est épouvantable, pas pour lui, parce qu'il ne s'est pas rendu compte qu'on le mettait. Il n'a rien dit, il s'est laissé faire. Simplement pour moi c'était abominable. Et je pense qu'en fait, avec le recul, je me dis, c'était horrible pour moi, mais c'était égoïste, parce que pour lui, c'était mieux. Il était pris en charge non-stop, avec douceur, à tous les moments. Voilà, il y avait des gens qui n'étaient là que pour lui, que pour s'occuper de lui, et qui savaient le faire sûrement mieux que moi en plus. Donc je pense qu'il faut être triste, enfin on peut être triste, malheureux de mettre la personne dans un établissement, mais je pense qu'il ne faut pas culpabiliser. Et pourtant je suis née coupable. Donc vraiment, si je dis ça, c'est que je pense qu'il faut être tranquille par rapport à ça. Après il faut venir le voir, il faut lui apporter ses jus de fruits préférés, ses gâteaux préférés, enfin tout ce qu'il peut aimer pour montrer qu'on fait quelque chose. Mais il ne faut pas culpabiliser d'avoir à mettre la personne qu'on aime et dont on était les dents dans un environnement spécialisé, je pense, maintenant.
Merci pour ce message très fort. Une autre question?
Bonjour, moi c'est Isabelle du Centre Hélène Borel, on va intervenir juste après. Donc on est une association qui notamment accompagne les aidants. Merci beaucoup pour votre témoignage qui est très émouvant. Et je me dis à quel point c'est nécessaire aussi qu'on soit là après. Je m'en rends compte vraiment avec votre témoignage aussi après quand l'aidé malheureusement n'est plus là. Et est-ce que vous pensez que ça aurait été, ça aurait été utile qu'on intervienne avant? Parce que souvent, nous, on intervient dans la période difficile où du coup, on trouve pas trop, c'est difficile de trouver une place, comme vous dites, et du temps. Est-ce qu'on peut intervenir en amont? Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est quelque chose où vous auriez été à l'écoute? Vous auriez eu besoin qu'on intervienne avant, enfin, juste une écoute, hein, comme vous disiez tout à l'heure? Ou ce n'est pas le moment non plus, le moment est après. Enfin, c'est vraiment un questionnement assez ouvert.
Mais quand Jean-Pierre est entré dans une maison, il restait un an et demi dans une maison spécialisée, une psychologue m'a dit, est-ce que je peux vous aimer? J'étais absolument pas réceptive à quoi que ce soit. Je veux dire, j'étais en colère contre la vie. Et j'étais ces gens qui étaient absolument adorables, j'étais à l'intérieur de moi, je ne les aimais pas. Alors que pourtant, ils étaient là pour faire du bien. Mais je ne les aimais pas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient le témoin de la maladie. Ils me montraient du doigt qu'il était malade, malade, malade. Donc, ce n'était pas la peine de se dire autre chose. Et je ne voulais pas voir ça, même si je le savais. Mais je voulais que ça soit une affaire entre moi et moi. À la limite, entre lui et moi. Mais que les psychologues viennent me dire, madame ceci, madame cela, non. Après, oui. Voilà. Donc je ne sais pas, maintenant peut-être il y a certainement des gens que ça aide. Après c'est au cas par cas. Au cas par cas. Et peut-être que si, ce qui pourrait se faire, c'est que quand les gens ont encore le malade à la maison, déjà en amont, on les prépare à ce que peut-être le malade serait mieux dans un autre univers que l'univers de la maison. Peut-être.
Est-ce qu'il y a une dernière question ? Non, mais de toute façon, si vous avez une question, gardez-la, puisque vous pouvez retrouver Agathe, Natasson, Marielle tout à l'heure après les entretiens. Vous pourrez d'abord discuter, tout simplement, discuter avec vous, et elle pourra vous dédicacer son très beau livre.
Voilà. Par contre, je pense vraiment aussi, et ça, ça me semble important, c'est d'avoir vraiment un vrai dialogue avec le médecin qui s'occupe du malade. C'est-à-dire que quelquefois, par pudeur ou par discrétion, on reste replié sur soi-même et on ne parle pas non plus de son mal-être par rapport à ce qui est en train de se passer. Et je pense qu'il faut dépasser ça et que le médecin qui s'occupe du malade est apte à nous écouter et à nous aider aussi, ne serait-ce que par la parole, je pense. Docteur ?
Le docteur Jean-Roch est tout à fait d'accord. Merci beaucoup, Agathe. Et
merci,
je rappelle
le
titre de votre livre, « Chantons sous les larmes, lettre à Jean-Pierre Marielle ». Donc, on vous retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup.